Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, reportage à Paris au cœur de, je cite le collectif hashtag nous toutes, la plus grande marche de l'histoire de France contre les violences sexistes. Un détour par l'une des opérations d'un autre collectif au féminin pluriel, cette fois les Sardines, qui ne lâchent pas d'une semelle Matteo Salvini ce soir en campagne en vue des élections régionales en Émilie. Et puis le combat des parents d'Otto Warmbier, un étudiant américain mort des suites de sa captivité en Corée du Nord. Mais tout d'abord un lacustre désastre, la Tamise, l'Elbe, le Rhin, la Seine, l'Èbre, le Rhône, le Tibre, la Garonne et la Loire, entre mai et novembre, trajectoire et calendrier d'une mission de la Fondation Tara, mission destinée à mesurer, hélas, trois fois hélas, les quantités de microplastiques que charrient ces fleuves européens. Laïla Mestersheim est biologiste de la Fondation Tara, elle répond aux questions d'Yves Decamp.
C'était une hypothèse qu'on souhaitait tester lors de cette expédition et on a réellement pu observer que déjà les microplastiques sont présents partout dans tous les fleuves sur lesquels on a pu aller et que ces microplastiques, on les retrouve bien en amont en fait des grandes villes qu'on a pu traiter, ce qui prouve que les déchets plastiques arrivent dans la mer non pas forcément sous une forme de gros déchets, ce qu'on appelle des macro-déchets, mais bien des microplastiques, donc qui sont en fait une pollution invisible, capable de rentrer dans la chaîne alimentaire. Donc nous, on sait aujourd'hui que les plastiques, sous l'effet des UV, de la température, ils sont capables de se fragmenter. Donc c'est typiquement les facteurs qu'on étudie quand on travaille en milieu marin. Mais dans les rivières, on a d'autres facteurs qui vont s'ajouter, comme l'effet des rochers, la vitesse du courant, le débit. Et donc ce que ça signifie, c'est que ces microplastiques, ils sont obtenus en amont en fait des grandes villes. C'est vraiment 80% de ces plastiques qui viennent bien du continent et non pas de la mer. Et donc il faut remonter encore au-dessus pour savoir réellement à quel endroit en fait ces plastiques vont arriver en grosse quantité sous le format de microplastiques.
Alors parmi les premières observations que vous avez pu faire, c'est que ces microparticules de plastique sont un peu des éponges à polluants.
Effectivement, en fait, donc dans la mission microplastique 2019, on avait une mission, on va dire, eau, c'est-à-dire qui filtrait l'eau, qui regardait ces plastiques dans l'eau, plus la comparaison avec l'eau environnante. Et également une mission terre qui consistait à placer des plastiques dont on connaissait l'histoire sur chacun de ces sites un mois avant que Tara ne vienne échantillonner l'eau. Et sur ces plastiques-là, lorsqu'on détache les polluants, on essaye de les extraire à la surface de ces plastiques, on se rend compte que au début, les plastiques qu'on a posés n'étaient pas toxiques. Et au bout d'un mois de colonisation, à certains endroits, ils le sont devenus. Mais la mauvaise nouvelle, c'est surtout que, en gros, ces plastiques qui au début restent une matière qui est inerte, va bioaccumuler certains polluants. Et en se fragmentant, vont rentrer dans la chaîne alimentaire. Ça veut dire que les organismes, comme des bivalves, comme des poissons, vont les absorber, ça va transiter dans leur tissu et nous, c'est ce qu'on mange. Donc, ça veut dire que potentiellement, on va également bioaccumuler nous-mêmes des polluants au travers de notre chaîne alimentaire.
Laïla Mestersheim, biologiste de la Fondation Tara. Elle chemine, cette marée noire qui a souillé plus de 2000 km de côte brésilienne au nord-ouest, nord-est du pays. Avant de gagner le littoral de l'état d'Espírito Santo au sud-est, première galette de pétrole repérée dans l'état de Rio de Janeiro ce matin. Influence à la hausse en cette deuxième marche contre les violences faites aux femmes à l'initiative du collectif hashtag nous toutes, mais aussi de plusieurs dizaines d'ONG, d'associations et de partis politiques. 49 000 personnes à Paris, selon un comptage réalisé par le cabinet Occurrence auquel fait appel Radio France. C'est beaucoup plus que l'année dernière. Et cette année, bonsoir Diane Berger.
Bonsoir.
Cette année, Diane, une thématique s'est imposée dans la manifestation, la lutte contre les féminicides.
Dans le cortège, des dizaines de panneaux blancs avec des noms, des dates, des numéros. Ce sont ceux des victimes de féminicides, de violences conjugales qui mènent au meurtre, à qui un collectif rend hommage. Jeanne, étudiante, en fait partie.
Moi, je trouve qu'il fallait les faire incarner, les faire exister aujourd'hui. Sur mon panneau, c'est Aminata, 31 ans, c'est la 133e victime. Aminata, c'était une mère de deux enfants, et en fait, elle a été tuée par coup de couteau, arme blanche, des dizaines de coups. Elle a été tuée sous les yeux de ses enfants. Je suis aussi ici pour ces enfants parce qu'ils vont avoir besoin de se construire avec ce meurtre-là.
Dans le cortège, des familles de victimes, des proches, parfois simplement des personnes émues par le sort de ces femmes, mais aussi d'autres qui ont peut-être échappé de peu. C'est ce qu'a vécu Camille en 2009.
Moi, j'ai été violée, j'ai été battue par mon ex-compagnon, vraiment qui me menace de mort très très sérieuse. Il a été condamné à ne pas entrer en communication avec moi, à se faire soigner, à ne pas détenir d'armes. Et en fait, rien n'a été appliqué. parce qu'il avait enlevé son nom de la boîte aux lettres et du coup le jugement pouvait pas lui être donné. Vraiment, quand j'avais appelé le tribunal pour savoir pourquoi il se passait rien, ils m'ont dit on n'a pas pu donner le courrier, il nous est revenu.
La mère de famille a finalement réussi à faire appliquer la peine de son ex-compagnon grâce à l'aide d'une association spécialisée et elle est venue aujourd'hui avec sa fille de 5 ans à qui elle souhaite un monde plus juste. Un monde plus juste pour les générations suivantes, c'est aussi ce que demande Florence, retraitée venue avec des amis. Elles ont manifesté ensemble à mai 68, puis pour le droit à l'avortement, pour l'égalité entre les genres. Pour elle, le combat féministe n'est pas fini et pour cause.
On est dans une association où une des directrices a été tuée par son compagnon. Donc tout d'un coup, c'est arrivé très très proche de moi. Je militais de façon lointaine, mais maintenant, c'est quelque chose qui appartient à mon entourage. Et le fait qu'on parle aujourd'hui des féminicides, je trouve que c'est vraiment important parce que c'était caché jusqu'à présent. Il faut qu'on soit toutes derrière ça.
Être toutes derrière cette cause, c'est l'objectif du mouvement d'aujourd'hui, alors que le Grenelle contre les violences conjugales se termine lundi et que de nombreux collectifs féministes s'inquiètent du manque de moyens donnés par le gouvernement.
Merci à vous, Diane Berger. Il est 18h06, vous écoutez le journal de France Culture. Avec détermination, les Sardines traquent la Ligue, le parti d'extrême droite italien. Elles se sont en effet donné rendez-vous dans une demi-heure à Reggio d'Emilie et demain à Rimini en Émilie-Romagne, là où Matteo Salvini fait campagne en vue des élections régionales du 26 janvier prochain. Les Sardines, collectif tout neuf qui se veut apolitique. À Rome, Bruce de Galzin.
Younes est l'un des organisateurs du Rassemblement des Sardines, aujourd'hui à Reggio d'Emilie. Fils d'émigrés marocains, il se définit comme italien sans la nationalité et dans la Repubblica s'en prend à Matteo Salvini. Il risque de tuer mes rêves, dit-il, alors que la bureaucratie italienne prévoit désormais 48 mois d'attente et non plus 24 pour octroyer la nationalité. Younes est aussi membre du Parti démocrate, mais jure que son parti n'est pour rien dans la mobilisation des Sardines. Il y a surtout des gens qui n'ont jamais fait de politique, dit-il. En réplique, Matteo Salvini a lancé un nouveau logo pour son parti, un chat qui mange une sardine, et a appelé ses militants à publier son logo sur les réseaux sociaux. Matteo Salvini, qui sera demain à Rimini pour inaugurer le siège de son parti pour les élections régionales, et pourrait tenter d'aller à la rencontre des Sardines, alors que leur mouvement ne cesse de s'amplifier. Après Florence et Milan, un groupe est né à Rome, 100 000 Sardines à Rome, qui se donne rendez-vous le 14 décembre en appelant chacun à venir avec 10 amis pour atteindre 1 million de personnes.
Au moins 10 morts lors de l'explosion d'une voiture piégée à Talabiyad, localité du nord de la Syrie, conquise par les troupes d'Ankara le mois dernier. À 45 km au sud de Talabiyad, l'armée turque affronte des effectifs des combattants kurdes des forces démocratiques syriennes pour le contrôle de la localité d'Ayn Issa. Les parents d'Otto Warmbier, un étudiant américain mort des suites de sa captivité en Corée du Nord, ont décidé de s'attaquer au régime de Pyongyang en utilisant les tribunaux ainsi que la saisie d'actifs à l'étranger. Ils viennent d'obtenir l'argent de la revente d'un cargo nord-coréen saisi cette année par les autorités américaines, ce qui constitue une première. Ils se trouvent en ce moment en Corée du Sud pour y rencontrer d'autres familles victimes du régime. À Séoul, Frédéric Ojardias.
Cindy et Fred Warmbier ont rencontré à Séoul des membres de familles de Japonais et de Coréens enlevés eux aussi par la Corée du Nord. L'occasion d'expliquer leur stratégie pour forcer le régime à changer d'attitude.
La Corée du Nord possède énormément d'actifs à l'étranger. La famille Kim a des milliards de dollars dans des comptes bancaires suisses. Elle a des maisons en Suisse. Notre mission est de retrouver ces biens et de défier les dirigeants nord-coréens. Les Nord-Coréens ne cessent de violer la loi. Dans le monde entier, ils gèrent par exemple un hôtel dans leur ambassade d'Allemagne en violation de la loi européenne et des sanctions internationales. Ces problèmes sont ignorés. Et ignorer la Corée du Nord est ce qui a coûté la vie de mon fils.
J'espère me rendre sur la frontière intercoréenne. Je veux y aller pour dire aux Nord-Coréens « Bonjour, je suis la maman d'Otto, je vous hais. » Je veux les regarder dans les yeux, voir le mal en face et savoir que nous l'emporterons. Nous ne pouvons pas les laisser faire. Nous devons nous battre de toutes nos forces.
Un tribunal américain a déjà condamné Pyongyang à verser un demi-milliard de dollars à la famille Warmbier. Le régime refuse de payer et les Warmbier utilisent donc l'arme de la saisie. Ils accusent aussi Séoul de ne pas soutenir les familles de personnes enlevées. Selon eux, la Corée du Sud est si désireuse de reprendre le dialogue avec le Nord qu'elle évite à tout prix de soulever la question des droits de l'homme.
Tout à l'heure à 16h, 1430 foyers étaient privés de courant dans le Var à la la suite des intempéries. Le temps de demain marqué encore par des précipitations sur l'est de la région PACA. Les départements justement du Var et des Alpes-Maritimes sont en vigilance rouge jusqu'à demain 17h. Les températures matinales seront autour de moins 1 à 3 degrés dans le nord-est, 3 à 8 degrés ailleurs.